Alors, parmi les personnages, il y a un moment dans l'histoire de Jenny May Crawford, la rencontre d'une certaine Mrs. Turner. Et je vais juste vous laisser découvrir Mrs. Turner. Mrs. Turner était une femme laiteuse de l'espèce qui ne connaît pas le retour de couche. Elle avait les épaules un peu voûtées et elle devait être très consciente de son bassin car elle le basculait toujours vers l'avant pour l'avoir toujours à l'œil. T-Cake se moquait souvent de son allure quand elle avait le dos tourné et racontait qu'elle avait été modelée par une vache qui lui aurait mis une ruade dans le derrière, qu'elle était une planche à repasser avec du bazar jeté dessus et que quand elle était bébé, la même vache lui avait pris sa bouche pour marcher dessus jusqu'à l'étaler bien grand entre un menton et un nez qui venaient presque se toucher. Mais l'allure et le visage de Mrs. Turner étaient entièrement du goût de Mrs. Turner. Son nez était légèrement en pointe et elle en était fière. Ses lèvres pincées étaient à ses yeux un ravissement perpétuel. Même son postérieur en bas-relief lui était source d'orgueil. Dans son idée, toutes ses particularités la distinguaient des nègres. Voilà pourquoi elle cherchait à se lier d'amitié avec Janey. Le teint café au lait de Janey et sa chevelure luxuriante faisait que Mrs. Turner lui pardonnait de porter cette salopette comme les autres femmes qui travaillaient au champ. Elle ne lui pardonnait pas de s'être mariée avec un homme aussi noir que T-Cake, mais elle avait le sentiment de pouvoir remédier à cela. C'était la mission pour laquelle son frère était venu au monde. Elle ne s'attardait guère lorsque T-Cake se trouvait à la maison, mais quand il lui arrivait de passer à l'improviste et de trouver Janey seule, elle restait des heures à discutailler. Son sujet défavori, c'était les nègres. Mrs. Turner se sentait honorée de compter Janey parmi ses fréquentations et bien vite elle pardonna et oublia les rebuffades pour la garder proche. Selon ses critères, quiconque avait l'air plus blanc qu'elle valait forcément mieux et par conséquent avait le droit de la traiter avec cruauté de temps en temps, de même qu'elle traitait avec cruauté les plus négroïdes qu'elle, en proportion directe avec leur dose de négritude. Exactement comme l'ordre hiérarchique dans un poulailler. Cruauté insensée envers ceux qu'on peut fouetter, soumission rampante devant ceux qu'on ne peut pas fouetter. Une fois les idoles érigées et leurs autels bâtis, il allait de soi qu'elle devait les adorer là. Il allait de soi qu'elle devait accepter toutes les marques d'inconstance et de cruauté dont ferait montre la divinité qu'elle s'était choisie, comme tout adorateur le fait de la sienne propre. Tous les dieux à qui l'on rend hommage sont cruels, sans quoi ils ne seraient pas adorés. C'est dans la souffrance aveugle que les hommes apprennent la peur, et la peur est la plus divine des émotions. Elle est toutes les pierres de l'autel, et elle est le commencement de la sagesse. Les demi-dieux sont adorés dans le vin et les fleurs. Les vrais dieux ont besoin de sang. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est... En fait, ça raconte Zora Neale Hurston, anthropologue aussi, et c'est précisément aussi avec ces passages-là, pas seulement la langue, que ces pères... n'ont pas trouvé digne d'un roman, n'ont pas trouvé digne de littérature, c'est aussi qu'elle décrit la communauté noire mais dans tous les aspects de sa puissance, y compris celui-là, c'est ce fait qui est que dans cette communauté, on n'a pas lu trop de passages machistes, mais voilà, ça c'est un passage, par exemple, comment un personnage comme Mrs. Turner, qui est noire, qui est même plus noire que Janey, et justement adore Janey parce qu'elle est plus claire, peut détester les nègres comme T-Cake, qui eux sont un peu plus noirs qu'elle, et qui se délectent de traits qui rappellent le fait qu'elle a un tout petit peu peut-être de blanc. Hein. Et ça n'a pas... Voilà, ça a été, je pense, assez difficile pour les lecteurs à l'époque de Zora Neale de lire ça, de lire tout ce qu'elle mettait là dans ce roman, qui n'était pas forcément édifiant comme on pouvait l'entendre à l'époque en poésie, en littérature, dans cet immense mouvement qui qui s'en allait vers la lutte pour les droits civiques. Et alors, pour parler de l'histoire de Zora Neale Hurston et de la raison pour laquelle elle a été mise au purgatoire aussi, c'est que, avec cette conscience très forte de son génie, elle arrivait dans les salons littéraires à Harlem et elle s'annonçait elle-même « Queen Zora is here ». Parce qu'elle était vraiment la reine d'Harlem Renaissance, avec Langston Hughes, qui est le grand poète d'Harlem Renaissance. Mais elle était aussi vraiment en avance et elle le savait. Et elle ne s'embarrassait pas, elle était sans concession et sans compromis, elle ne s'embarrassait pas de préserver les amitiés, et sans doute à cause de ça, et à cause de ses positions politiques complètement décalées par rapport au mouvement à côté duquel elle avançait, comme par exemple le fait qu'elle était contre l'intégration dans les écoles. Et elle le disait très clairement. Pourquoi ? Est-ce qu'elle a eu besoin d'intégration ? Est-ce qu'elle a eu besoin d'une école de blanc ? Non. Et elle est devenue la première romancière noire américaine, la première anthropologue noire américaine. Et donc pour elle, c'était en fait insultant, cette petite fille qu'on emmène sous les crachats et les tomates. C'était insultant pour elle de céder à ça. Donc voilà, c'était impossible qu'elle soit comprise à cette époque-là. Impossible. Et ça, plus sans doute d'autres inimitiés qu'elle s'est elle-même attirées, en fait que voilà, elle a été accusée à tort d'une chose assez atroce. Il a été prouvé très rapidement qu'elle n'était même pas dans le pays quand cet événement pour lequel elle a été accusée s'est produit. Mais c'était fait, c'était paru dans tous les journaux et elle avait été... elle avait subi une très grande humiliation publique en étant accusée comme ça. Et puis, ce qu'elle a fait, elle, et à partir de ce moment-là, alors qu'elle était vraiment adulée et réclamée par... tous les éditeurs qui, en fait, les éditeurs plutôt blancs cherchaient à la publier du temps de sa gloire. Beaucoup, elle a été encensée par les critiques blancs qui ont vraiment crié au génie dans leur papier en 1937. Et à partir du moment où elle a chuté, on a refusé ses textes. Alors elle a continué, elle ne s'est pas arrêtée, elle a continué à être une anthropologue, elle a poursuivi ses recherches en Floride, à Haïti, elle a des recherches, son travail anthropologique est d'une très très grande importance et aujourd'hui, c'est vraiment reconnu, mais elle a fait tout ça en silence et dans une vie très très modeste jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, elle est morte et elle a glissé dans cet oubli jusqu'à la redécouverte par les Morrison et Walker et compagnie. Mais c'est vraiment un personnage que j'aime bien dire énormiste, Zora Neale Hurston, et plein de contradictions, de zones assez troublante, dans son caractère et son parcours, ça brouille avec son frère, son âme sœur qui était Langston Hughes, est due vraiment à des questions d'orgueil, d'ego absolument dérisoire, et ces deux grandes âmes se sont éloignés alors qu'ils étaient destinés à faire de grands textes ensemble. Ils ont commencé à écrire ensemble et puis sur une question de droit d'auteur et de nom sur une pièce de théâtre, on ne sait pas qui a grugé l'autre, mais voilà, Elle a une histoire très étonnante et assez passionnante. Oui. Que dire d'autre? Merci beaucoup en tout cas.
Merci.
De vos lectures.
Avec plaisir. Ouais.
Et on a fini, je pense, mais on peut. J'aurais pu parler de traduction plus précisément, mais c'est compliqué pour moi de parler de traduction déjà en général, et c'est encore plus compliqué pour moi de parler de traduction par rapport à ce livre. Parce que je ne sais pas vraiment comment, j'en parlais l'autre soir, comment j'ai fini par réussir à le traduire. Pour moi, la traduction, c'est quelque chose d'assez impulsif et intuitif. Et pour ce livre que qu'au départ, je jugeais impossible à traduire, il y a eu tout un chemin en moi. Parfois douloureux, de paralysie, de grand silence, d'inertie totale. Et puis un jour, ou à force de regarder le texte comme ça, un jour quelque chose est venu, notamment un peu avant un atelier à l'Avenue, un atelier de traduction avec d'autres textes impossibles. Et là, au milieu d'autres textes impossibles, j'ai testé un petit bout, les 40 premières pages, les 30 premières pages que j'avais écrites, où il y avait donc un tiers de narration, comme vous avez pu l'entendre là, très lyrique et très. Et puis deux tiers de dialogue. Impossible parce que ça n'existe pas en français, cette langue que j'aurais pu lire en anglais, mais, mais j'ai peur de. C'est vrai que j'ai peur, comme vous, de ne pas être à la hauteur de l'accent qu'il faudrait pour ces passages-là. Mais voilà, quand je l'avais testé à l'Avigny, il a semblé que. Ça allait. Alors j'ai continué, mais très lentement. Et ça a duré assez. Oui, ça a duré 2 ans ensuite pour que je termine le roman, avec toujours le sentiment que. Le sentiment, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et j'ai toujours ce sentiment-là. Je ne sais pas trop ce que c'est en français, là, ce texte. Je sais, j'ai entendu quand même d'où les choses venaient. Je sais que il y a un parler acadien que je connais pas parce que je l'ai étudié, mais parce que j'ai vécu un peu au Canada et je m'intéresse aux langues, donc je suis un peu éponge, donc je retiens les structures de langue, et donc c'est ça qui est venu. Et ça, plus le fait que j'ai conscience de savoir le geste de cette langue, mais c'est difficile à dire, ça. Savoir le geste de la langue, mais il n'y a pas de mots. Et donc, c'était un peu se jeter dans le précipice, quoi, pour moi. Le sentiment souvent que j'avais en traduisant ce texte, enfin, certains passages du texte. Voilà. Mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Parce que ce texte est une merveille. C'est une merveille de roman. C'est bouleversant et magnifique. C'est vraiment génial, ce roman.